Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue. Le Kiosque Magazine du lundi 17 novembre est commencé pour vous accompagner au cours de l'heure qui s'en vient en régie Jean-Sébastien Laliberté que nous saluons et celui qui vous parle, Roger Roy. Au menu de ce kiosque culture et société aujourd'hui, deux écrivains, un Gallois, Ken Follett, et un Suédois, Henning Mankell. Un danseur sans limite, Luca Pacioli, dit Lazy Legs. Quand l'énergie, le pétrole et l'hydroélectricité, l'hydroélectricité changent le monde, la mauvaise éducation, la courtoisie serait-elle devenue un indice de faiblesse qu'on cache? Et pour commencer, le thème de l'environnement, deux papiers qu'on peut lire dans l'actualité du 1er novembre, La nouvelle nature du Québec, qui résulterait du réchauffement climatique. Mais en premier lieu, faut-il sauver les bélugas? Un texte de Jonathan Trudel. De son bureau à l'étage du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins à Tadoussac, Robert Michaud a une vue imprenable sur les bélugas du Saguenay. Mais depuis quelques années, il observe de moins en moins de ces baleines blanches. Après avoir stagné pendant 30 ans, la population de l'espèce est en déclin. S'il va de l'avant, le projet de port pétrolier de TransCanada à Kakuna pour exporter le pétrole albertain pourrait donner un coup fatal aux bélugas, dit le directeur de ce groupe de recherche. Question posée par Jonathan Trudel. Il y a déjà beaucoup de trafic maritime sur le Saint-Laurent. En quoi la construction d'un port pétrolier à Kakuna changerait-elle la donne? Le trafic maritime est concentré sur la rive nord. La rive sud est considérée comme le refuge acoustique des bélugas qui sont extrêmement sensibles aux ondes sonores. Ils habitent une petite portion de l'estuaire de l'île du Bic à l'île aux Coudres. Certaines zones désignées par la loi sur les espèces en péril comme l'espace essentiel du béluga sont surtout habitées par les femelles et les jeunes. Or, l'une des zones les plus critiques se situe exactement sous le pilier prévu du port pétrolier de Kakuna, une immense jetée qui s'avancera sur 700 mètres. C'est à cet endroit précis que les bélugas s'alimentent au printemps et élèvent leurs jeunes à l'automne. Comme ces mammifères forment une très petite population, moins de 1000 individus, si on réduisait le succès reproducteur de quelques femelles ou les chances de survie de quelques jeunes, ce serait assez pour accélérer le déclin de tout le troupeau. Le gouvernement a-t-il sollicité votre avis? C'est la question qu'on pose à M. Michaud. Non. Même mes collègues de Pêche et Océan Canada n'ont pas été consultés. S'ils l'avaient été, je suis convaincu qu'ils diraient la même chose que moi parce qu'ils utilisent les mêmes données. En 2007, lorsque TransCanada a voulu construire un port méthanier à Kakuna pour importer du gaz naturel russe, ils avaient publié un avis très clair. Aucun forage pendant la période d'utilisation intensive du secteur par les bélugas. À l'époque, la population était stable. Depuis, elle décline. On ne peut pas rapidement renverser les changements climatiques qui expliquent en partie ce déclin. Mais on peut réduire les sources de stress, particulièrement dans les aires les plus cruciales pour les femelles et les jeunes. Dernière question, il y a des bélugas ailleurs dans le monde. Pourquoi faudrait-il absolument sauver ceux du Saint-Laurent? Si ces animaux disparaissent, on perdra une partie de notre patrimoine naturel et de la biodiversité de cette espèce. Mais on perdra aussi une bataille importante, celle visant à préserver dans le Saint-Laurent des conditions de vie favorables pour les autres espèces vivantes. Depuis une trentaine d'années, nos gouvernements ont consenti des efforts très importants pour rétablir cette population qu'on avait chassée jusqu'au seuil de l'extinction. On a créé un parc marin pour protéger les bélugas. On les a utilisés comme une sorte d'emblème dans tous les programmes fédéraux appelés « Plan d'action Saint-Laurent ». On mesurait notre avancement dans la décontamination du fleuve à l'aune des améliorations de la santé des bélugas. Si ces derniers s'éteignent, ce sera un constat d'échec sur la façon de partager notre fleuve. Faut-il sauver les bélugas? Par Jonathan Trudel. Maintenant, un autre texte intéressant, signé celui-là par Valérie Borde, toujours dans l'actualité du 1er novembre, oui. La nouvelle nature du Québec. Effet direct des changements climatiques. La nature du Québec se transformera rapidement dans les prochaines décennies. Des dizaines de nouvelles espèces venues du Sud coloniseront le territoire, tandis que d'autres en disparaîtront. Certains écosystèmes seront bouleversés. En 2080, la population des rives du lac Saint-Jean et peut-être celle de Baie-Comeau jouiront du climat qui règne actuellement à Montréal, alors que les conditions dans la métropole se rapprocheront de celles que connaissent aujourd'hui Philadelphie ou Washington. Depuis 2007, le biologiste Dominique Berthaud, professeur à l'Université du Québec à Rimouski, pilote une étude de grande envergure, CCBio, qui a permis d'établir un premier pronostic sur ce qui attend la biodiversité du Québec. L'étude réunit une quarantaine de scientifiques ainsi que des gestionnaires de la faune et des associations de naturalistes. Ces spécialistes ont d'abord compilé les données existantes sur 1000 espèces d'animaux et de plantes vivant au Québec ou au sud de sa frontière. Puis ils ont établi la niche écologique de 765 de ces espèces, c'est-à-dire le territoire dans lequel chacune trouve les conditions favorables à son épanouissement. En combinant ces données à diverses hypothèses sur les changements climatiques, ils ont examiné comment les niches écologiques se déplaceront. Le résultat est saisissant. Leur travail de moine a donné lieu à la publication d'un ouvrage pour grand public « Changement climatique et biodiversité du Québec vers un nouveau patrimoine naturel » et à la création d'un site Internet contenant des milliers de cartes sur les répartitions actuelles et futures des espèces. Ce site Internet, c'est en lettres minuscules, cc-bio.uqar.ca. Voici quelques exemples. Il y en a des espèces qui vont se maintenir, comme la mésange à tête noire, très répandue en Amérique du Nord, s'est habituée des mangeoires pour regagner la forêt boréale où elle entrera en compétition avec la mésange à tête brune. Elle restera cependant abondante dans le sud du Québec. Le bouleau glanduleux sera expulsé. Cet arbuste nordique ne se retrouve que dans la forêt boréale et la toundra. Il pourrait disparaître de la zone située au sud du 53e parallèle, c'est à la latitude de Fermont, étudiée par les chercheurs, mais peut-être gagner du terrain plus au nord. On va perdre aussi, dans les basses terres du Saint-Laurent, l'iris versicolore, l'emblème floral du Québec. Il va se déplacer plus au nord. Alors, c'est intéressant, c'est dans l'actualité. La nouvelle nature du Québec par Valérie Borde.
Les gars polis, les gars aimables. viennent bomber du feu à ma table. Moi, je suis le miroir de tous les autres. Il reste plus rien qu'à mettre debout. Vu de m'accrocher au mur en tant que chef-d'œuvre de la nature.
Plume la traverse, revisité par Antoine Craton. En page couverture de l'actualité du 1er décembre, on peut lire « Spécial livre » avec des titres comme « Nelligan »,« L'imposture dévoilée »,« Un prix Goncourt, ça change pas le monde, sauf que »,« Où s'en va Renaud Bré » et aussi « Comment on fabrique un best-seller », une entrevue avec Ken Follett. Je vous parle de ce texte signé par l'intervieweuse Isabelle Grégoire. Le titre qu'elle donne à son texte est « La folie Follette ». Viser le cœur des lecteurs, les forcer à tourner chaque page en y insérant un élément palpitant, miser sur une histoire forte et des personnages attachants, c'est ce qui a permis au Gallois Ken Follett, 65 ans, de s'imposer comme l'un des écrivains les plus populaires du monde. Dévoré tant par les hommes que par les femmes, ses romans mêlent action, amour, bataille, guerre et sexe. Ils sont à la fois haletants et instructifs, truffés de références historiques, mais jamais ennuyeux. Rien ne me rend plus heureux qu'un lecteur me remerciant des heures de plaisir que je lui ai données, confie Follett. Mon besoin primordial n'est pas d'écrire, mais d'être lu. Et ça marche. Ses livres vendus à 150 millions d'exemplaires dans plus de 80 pays. Sont traduits en 33 langues, publiés chez Robert Laffont en version française. Une popularité qui ne le surprend pas. J'ai travaillé fort pour y arriver, dit cet homme affable et rieur qui s'exprime dans un bon français ayant vécu en Provence dans les années 1980. Mais la gloire n'est pas venue d'un coup. Diplômé en philo, journaliste insatisfait, ce petit-fils de mineur et fils d'inspecteur des impôts se lance dans la fiction à 24 ans, mais sans grand succès. Il s'attelle alors à comprendre les ingrédients clés des best-sellers et concocte une recette à sa main. Résultat, en 1978, le thriller d'espionnage « L'arme à l'œil » s'écoule à 10 millions d'exemplaires. C'est toutefois avec son roman historique « Les piliers de la Terre », publié en 1989, qui raconte la construction d'une cathédrale au Moyen Âge, qu'il remporte un succès international, 23 millions d'exemplaires. En 2010, Follett revient en force avec l'ébouriffante trilogie « Le siècle », plantée au 20e siècle. Follett revient en force, non, trois briques, plus de 1000 pages chacune, mettant en scène cinq familles, allemandes, anglaises, américaines, russes et galloises, dont les destins s'entremêlent durant la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, la chute des géants, la Deuxième Guerre mondiale, l'hiver du monde, et enfin la guerre froide aux portes de l'éternité. En plus d'être fort attachantes, ces familles nous permettent de considérer l'histoire sous différents angles géographiques et politiques. Dans ce dernier opus, les personnages fictifs côtoient des célébrités historiques, Khrushchev, les Kennedy, Martin Luther King. Cela nous permet de vivre les événements majeurs des années 1960 à 1989, guerre du Vietnam, assassinat des Kennedy et de King, conquête des droits civils, crise des missiles cubains, chute du mur de Berlin. Questions et réponses. Question. On dit que les gens ne lisent plus ou alors les textes de plus en plus courts ou alors des textes de plus en plus courts. Or, vous vendez des millions de livres qui sont de vraies briques aux histoires complexes. Pourquoi les lecteurs aiment-ils autant les grandes sagas historiques, souvent des best-sellers? À mon avis, la longueur n'est pas la question. La question, c'est, est-ce que l'histoire enchante les lecteurs? Si oui, ils en redemandent parce qu'ils s'amusent. Beaucoup m'ont dit avoir adoré les piliers de la Terre, mais qu'ils auraient voulu qu'ils soient plus longs, alors que le bouquin fait déjà 1000 pages. Pour les lecteurs du 19e siècle qui n'avaient ni télé, ni radio, ni cinéma, mais seulement des romans, il n'était pas essentiel que chaque page du livre soit passionnante. Mais aujourd'hui, les lecteurs peuvent fermer le livre et brancher la télé, l'ordinateur. C'est pourquoi il faut les enchanter. Comment réussissez-vous à les enchanter? Le plus important, c'est que le lecteur partage les émotions des personnages, que son cœur batte quand ceux-ci ont peur, qu'il ait la larme à l'œil quand ils sont tristes. Si vous y parvenez, le lecteur va aimer le livre et tourner les pages. Sinon, le livre ne sera pas un grand succès, même s'il est très bien écrit, si les critiques disent qu'il est formidable et s'il gagne le prix Goncourt. J'emploie le mot « enchanté » parce que c'est une sorte de miracle. Le lecteur sait que les personnages de l'histoire ne sont pas réels, que Follett les a inventés, mais le lecteur ressent quand même une émotion. Il vous a fallu 7 ans pour écrire cette trilogie d'un million de mots sur l'histoire du 20e siècle. Comment avez-vous découpé votre temps? Réponse: je travaille toujours en 3 phases, de 6 à 9 mois chacune. J'ai commencé par lire plusieurs livres sur l'histoire du 20e siècle, puis j'ai fait des recherches générales et dressé un plan pour les 3 livres. Ensuite, j'en ai rédigé un pour chacun des tomes et j'ai écrit le premier jet du premier tome. Puis je l'ai réécrit. Vous travaillez avec une armée de recherchistes, d'historiens. Oui, dit-il, au départ, je fais toutes les recherches moi-même, j'emploie des historiens pour lire et corriger la première mouture. Lorsque je réécris, j'ai donc beaucoup de notes provenant des historiens, mais aussi de personnes ayant vécu les événements sur lesquels j'écris. Par exemple, aux portes de l'éternité, j'ai interviewé 2 amis qui étaient au Vietnam pendant la guerre et un autre qui était rock star dans les années 1960. J'ai aussi parlé avec une femme qui était la girlfriend du président Kennedy. C'est comme ça que j'ai appris comment il faisait l'amour. Elle m'a tout expliqué. Et lui, de sourire. Alors, c'est un texte qu'on peut retrouver dans l'actualité du 1er décembre, La folie Follett.
Du millionnaire heureux qui s'achète une planète, au soldat nerveux, le doigt sur la gâchette, du plus petit géant jusqu'au nain le plus grand, de la beauté sublime au beau-frère anonyme. C'est une petite fille pareille.
De la main de la nature au poseur de clôture, de l'enfant qu'on isole dans les murs d'une école, à l'ancienne vedette de rock and roll qui replogue sa guitare puis qui trouve plus ça drôle.
On dira ce qu'on voudra, la vie est aussi plate pour tout le monde ici bas. On a beau faire nos têtes enflées dans une panne d'électricité, tout le monde au monde a peur de rester pris
dans l'ascenseur. On a eu les cheveux longs, on a eu les cheveux courts, on a fait les fanfarons dans nos histoires d'amour, on a traversé les modes comme on traverse la rue, des fois comme le lièvre, d'autres fois comme la tortue.
Oh, la petite vie, pareil.
On a roulé sur l'or, roulé dans la farine, fumé du persil, sniffé de l'aspirine, tombé dans le stupre et la fornication pour revenir à Jésus et lâcher la boisson.
On dira ce qu'on voudra, la vie est aussi plate pour tout le monde ici. On a beau faire nos têtes enflées dans une panne d'électricité, tout le monde au monde a peur de rester pris
dans l'ascenseur.
On
se pogne la tête dans toutes sortes d'étaux. On se casse la gueule dans toutes sortes d'auto. On regrette en pleurant le temps qu'on a perdu, le fun qu'on aurait eu à le laisser passer simplement. On dira ce qu'on voudra. La vie est aussi plate pour tout le monde ici bas. On a beau faire nos têtes enflées dans une panne d'électricité, tout le monde au monde a peur de rester pris
dans l'ascenseur. J'ai fait le tour du monde et j'en suis convaincue. La terre est bien plus ronde que le monde qui vit dessus.
Tricomachine. Dans l'actualité du 1er novembre, La mauvaise éducation, c'est un texte de David Desjardins. Un homme entre dans la boutique, la soixantaine, le visage fermé. Il désigne un robot culinaire du doigt. C'est combien? N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée. Habitué à ce genre d'incivilité, lui ne bronche pas, se contentant de répondre sèchement. Puis entre un autre homme pour réclamer un renseignement. Il l'obtient, ce renseignement, et part sans dire merci. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que je m'en aille à mon tour, tandis qu'affleurent à la surface de ma mémoire mes années de cauchemars dans le service à la clientèle, à vendre des vélos, des chaussures, de la bière, des souvenirs dans le Vieux-Québec et des jeans sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Le client ayant fini par croire qu'il est effectivement roi et que son noble statut le dispense de toute délicatesse, il déshumanise couramment un personnel qui est ainsi réduit à une forme de servitude. M'étant fait braquer alors que je travaillais dans cette artère montréalaise, j'exagérerais à peine en disant que le voleur n'a pas été le plus désagréable des personnages que j'ai croisés au fil des ans. Il avait pris le temps d'essayer deux pantalons, subtilisés en même temps que la caisse, et avait au moins eu la décence d'être poli, avant de me mettre son arme sous le nez. Ce qui n'est pas le cas du type qui coupe la file d'attente à l'épicerie, de l'automobiliste qui refuse de vous laisser vous insérer dans le trafic et garde le regard braqué vers l'avant, sans parler de tous les anonymes qui infectent le web avec leurs commentaires immondes, réclamant que la liberté de parole soit aussi celle d'injurier. Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social, c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes nécessaires au vivre ensemble, à commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres. Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières, conspuées par les 68 heures, c'est vilain, sous le prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois, ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale. J'oserais même avancer que c'est désormais l'impolitesse qui est le nouvel outil d'exclusion à l'avantage du plus fort en gueule et du plus brutal. La courtoisie devient un indice de faiblesse qu'on évite de montrer. En même temps, on connaît la règle. Il faut être poli. Ce qui explique peut-être que c'est derrière le volant et dans l'anonymat de la foule ou du web que foisonne le plus librement l'impolitesse, ou alors dans le rapport de force client-vendeur. Là, on peut enfin être soi-même sans le théâtre et donc le léger mensonge que nécessite la vie en société. La recherche de vérité et d'authenticité que souhaitaient les détracteurs du savoir-vivre ne donne cependant pas les résultats escomptés, nous rendre tous égaux. Comme de nombreux idéaux dévoyés par l'hyper-individualisme, le rejet des bonnes manières est devenu l'expression du culte de soi, de la volonté de chacun de jouir sans entrave, sans égard aux autres. Et voilà qu'on découvre avec horreur que nos cours d'école en subissent le contre-coup, que l'intimidation n'y est plus anecdotique, mais quotidienne. Comme si les enfants nous tendaient un miroir, nous montrant qu'on a beau leur répéter d'être poli, les paroles s'envolent, mais le mauvais exemple reste. PS. Pourquoi la politesse de Dominique Picard, publié au Seuil, est un essai qui a presque 20 ans, mais demeure essentiel pour quiconque souhaite comprendre le rôle multiple des bonnes manières dans la cohésion sociale. Des brèves maintenant. Le décapiteur en chef, qui est Abou Bakr, B-A-K-R, al-Baghdadi, chef du groupe armé État islamique. Son nom, Abou Bakr, désigne le premier calife et compagnon du prophète. Al-Baghdadi veut simplement dire de Bagdad. C'est son nom de guerre. En réalité, il s'appelle Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri. Facile à retenir. Ses origines, il est né dans la province de Djiala, dans l'est de l'Irak, en 1971. Son style, c'est un mélange de télé-évangéliste américain et de prédicateur médiéval. Il diffuse ses discours en rythme psalmodié. Érudit de l'islam, cet homme sanguinaire et ambitieux cultive le secret et s'entoure d'une aura de mystère. Son financement, son trésor de guerre atteindrait de 1 à 2 milliards de dollars amassés, entre autres, grâce aux prises d'otages, à un impôt révolutionnaire prélevé dans les zones qu'il occupe et à la vente de pétrole aux mafias. Son marketing, il utilise la violence comme stratégie de mise en marché de ses idées. La cruauté de ses hommes sème la peur parmi ses ennemis et l'aide à recruter des combattants parmi ses alliés. Sa valeur, le FBI offre 10 millions de dollars pour sa capture.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et le Kiosque Magazine du lundi 17 novembre se poursuit. C'est Roger Roy qui vous parle. Dans l'actualité du 1er novembre, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay publie un papier auquel il donne le titre « Quand l'énergie change le monde ». Commençons par des situations moins connues. Ainsi, ce qui se passe sur le Nil. Un barrage diplomatique sur le Nil bleu. Le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en Éthiopie est aussi celui de la discorde. Ce barrage, le plus imposant d'Afrique et le troisième au monde, sera un robinet sur un cours d'eau qui fournit 85 % du débit du Nil. Au Caire, 3500 km en aval, le chantier hydroélectrique soulève des angoisses existentielles. Les maigres 3 % de terres arables de l'Égypte sont entièrement irriguées par le fleuve. La construction du chantier hydroélectrique de 4,2 milliards de dollars, commencé l'année dernière, devrait être achevée en 2017. Les dirigeants égyptiens veulent qu'elle soit suspendue le temps que l'impact sur le débit d'eau soit mieux documenté. L'ex-président Mohamed Morsi, qui jugeait inviolables les droits de l'Égypte sur le Nil, songeait à l'été 2013 à armer les opposants au régime éthiopien pour arrêter la construction du barrage. Sous le régime militaire qui a renversé Morsi en juillet 2013, les efforts diplomatiques qui se poursuivent avec Addis Abeba, la capitale éthiopienne, n'ont mené à rien jusqu'ici. Car le compromis vient à un prix trop élevé, les experts estiment pour l'heure que le débit du plus long fleuve du monde pourrait chuter de 20 %. Et le général égyptien Abdel Fattah al-Sisi sait qu'une pénurie alimentaire causée par un assèchement du Nil poussera à nouveau les Égyptiens dans la rue. Au Venezuela maintenant. Autre situation. Si le successeur de Hugo Chavez, Nicolas Maduro, a été ébranlé par des mois de manifestations au début 2014, c'est en bonne partie parce que l'industrie pétrolière vénézuélienne est en lambeaux. Depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez en 1999, la société pétrolière d'État Petroleos de Venezuela, S.A., a été une arme politique au service de la révolution bolivarienne, comme on l'appelait. Le charismatique leader, décédé en mars 2013, et son successeur ont tour à tour acheté la paix sociale avec des liasses de pétrodollars. Les Vénézuéliens ne paient l'essence de leur voiture que 2 cents le litre. Imaginez 2 cents le litre. De nombreux programmes sociaux ont aussi vu le jour grâce à la rente pétrolière. Mais la saignée des revenus du pétrole en vue de subventionner 1001 programmes révolutionnaires a fini par tuer la poule aux œufs d'or. Incapable d'investir dans ses infrastructures, noyé dans les dettes, Petroleos voit sa production décliner malgré des réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde de 3,5 millions de barils par jour en 2000. Elle a dégringolé à 2,5 millions. Si le déclin continue, Maduro risque d'être lâché par ses alliés diplomatiques que Chavez avait attirés vers lui en les inondant de pétrole bon marché. Aujourd'hui, Caracas liquide quelque 250 000 barils par jour dans 17 pays de la région, dont Cuba, l'Équateur et la Bolivie. C'est le chiffre le plus bas depuis 2007. Maintenant, la Chine et l'Iran. Le pays le plus peuplé de la planète, dont l'économie tourne à plein régime depuis des décennies, a soif d'énergie. À la fin de 2013, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand importateur de pétrole au monde. Et l'Iran, qui se trouve à proximité, est un fournisseur de choix. L'Inde, le Japon et la Corée du Sud ont aussi un faible pour ce pétrole interdit. Pourquoi est-il interdit? Les États-Unis et l'Union européenne tentent de contraindre l'Iran à abandonner son programme nucléaire en imposant un embargo sur son pétrole. Que la Chine soit et de loin le principal client de l'Iran fait tiquer Washington et Bruxelles. En vertu des sanctions qui pèsent sur Téhéran, la République islamique ne peut exporter plus d'un million de barils par jour, mais la demande asiatique a poussé l'Iran à violer cette règle à répétition depuis l'an dernier. Des émissaires américains se rendent donc régulièrement de l'autre côté du Pacifique afin de convaincre les Asiatiques d'aller chercher leur pétrole auprès d'autres producteurs. Plus près de nous, il est intéressant de noter qu'aux États-Unis, si je peux retomber sur le texte, là, on se deviendrait indépendant au point de vue pétrolier. Ils viennent de détrôner le royaume saoudien comme premier producteur de pétrole de la planète. Le pétrole de schiste qu'on tire surtout des sous-sols du Dakota du Nord et du Texas depuis 2006 devrait rendre les États-Unis autosuffisants en 2020. Affranchi du pétrole du Moyen-Orient, Washington pourra se désengager de cette région turbulente. Mais attention, l'Arabie saoudite et les autres producteurs de la région, Iran, Irak, Koweït, etc., demeurent des acteurs de premier plan sur le marché mondial du pétrole. Il suffit d'une baisse de production soudaine dans les déserts brûlants du Golfe Persique pour que le prix du baril grimpe au plafond. Aucune station d'essence américaine n'y échapperait. L'Arabie saoudite est aussi le seul producteur au monde à posséder une généreuse capacité de surplus. Riyad peut jouer avec les prix mondiaux du pétrole en ouvrant les robinets du jour au lendemain pour inonder quotidiennement le marché avec environ 2 millions de barils. Tant que les pays du Golfe produiront près du tiers du pétrole mondial, la superpuissance américaine devra s'occuper de la stabilité de la région pour sa propre sécurité énergétique. Il y a d'autres sujets comme étrangler l'Ukraine avec des gazoducs par la Russie. Et le Canada, qu'est-ce qui se passe avec M. Harper?
C'est fin octobre, début novembre, le ciel est rose et bleu lavande, seul dans la foule de Montréal. Je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent. Toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel. Si loin de la tour de Babel. Moi c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi quand reviendras-tu. Fou rire sans toi, c'est peine perdue. T'es rare comme une étoile filante. Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance. Je garde ton odeur dans la chambre. Mon amour, tu me manques. Je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques.
Dans le texte qui paraît dans le Reader's Digest du mois d'octobre, Drew Nellis nous présente Luca Lazy Legs, L-E-G-Z, Pacioli, le danseur sans limite. Luca Lazy Legs Pacioli tourne sur lui-même, glisse et saute malgré les béquilles qu'il utilise depuis l'enfance. Aujourd'hui, le danseur montréalais enseigne aux enfants souffrant de handicap qu'il n'existe pas d'entrave. Drew Nellis nous raconte comment Lazy Legs en est arrivé là. Debout au fond d'un pub universitaire de Washington, D.C., Luca Pacioli observait avec enthousiasme deux garçons plus âgés s'affrontaient dans un battle. S'élançant, retombant et tournant très rapidement sur eux-mêmes, les B-Boys étaient des derviches tourneurs à la fois agressifs et gracieux. Les B-Boys, ce sont les héritiers du breakdance, d'abord apparu dans les communautés noires et portoricaines de New York dans les années 70. Ces B-Boys étaient impressionnants, sans aucun doute. Mais Lucas l'était aussi. Souffrant d'arthrogrippose depuis la naissance, une maladie caractérisée par un durcissement des articulations, il subit sa première opération à l'âge de 7 mois. 15 autres opérations suivirent, y compris à 13 ans. Une intervention pour insérer une tige le long de sa colonne vertébrale afin de redresser sa scoliose. Mais Lucas adorait le mouvement. Enfant, amateur de skate, il se déplaçait à genoux sur sa planche en se propulsant avec les mains. Lorsqu'une opération au genou y mit un terme, il utilisa des béquilles, les jambes maintenues par des appareils orthopédiques. En regardant les B-Boys, le garçon de 15 ans comprit qu'il pouvait faire quelque chose dont ils étaient incapables. Laissant ses béquilles dans un coin, Lucas avait rampé à travers la foule jusqu'au centre du cercle de danse et s'était mis à faire des planches push-up, un mouvement très difficile, où les jambes et les pieds ne devaient pas toucher le sol, exigeant une très grande puissance musculaire du haut du corps. Comme Lucas utilisait avant tout ses bras dans la vie quotidienne, et comme ses jambes étaient très minces et légères, Il savait faire ce mouvement depuis des années. Le public l'avait acclamé, il disait « C'est trop cool, le gamin sans jambes a du style ». 10 ans et demi plus tard, le néophyte s'est aguerri et se fait maintenant appeler « Lazy Legs ». Il ressemble à un roc avec des allumettes en guise de jambes, ses épaules larges et son torse mis en valeur par les débardeurs généralement portés par les amateurs de hip-hop. Sur scène, il se pavane avec une assurance à toute épreuve et avec l'humour cabotin courant dans ce milieu. Mais même selon les critères d'une communauté qui encourage la nouveauté et la personnalité, le style de Lucas demeure unique. Un instant, il peut faire du top rock en se hissant dans les airs pour une succession de pas à la verticale, ses jambes exécutant des mouvements de treading entre ses béquilles. L'instant d'après, il sera au sol pour une phase à tourner comme une pale d'hélicoptère. En tant que b-boy, Lucas ne cache pas son handicap. Il en fait un art aérien. En 2002, il est revenu à Montréal, où il est né, après avoir passé sa jeunesse dans la région de Washington. La ville se targue d'être l'une des plus anciennes scènes du hip-hop au Canada et un point chaud du breakdance. Il a rapidement mis un pied dans ce milieu qu'il a utilisé pour lancer sa carrière à travers le monde en affrontant souvent des danseurs non handicapés dans des émissions de télévision et dans des festivals de danse partout dans le monde. Bien qu'il ne soit pas le premier b-boy handicapé, ce titre revient à un Français d'origine congolaise de 33 ans nommé Junior. Lucas est le premier Canadien à utiliser des béquilles dans un numéro. L'arthrogrippose, avec tous les défis qu'elle pose, a agi comme une manne créative. Comme la mobilité de ses épaules est limitée, Lucas peut faire des handstands, mais il doit contourner la difficulté en se tenant en équilibre sur un coude et en tournant la tête de côté. Et il y a aussi son pas caractéristique, grâce à ses jambes paresseuses. Une partie de l'attrait exercé par le breakdance est due à la capacité d'improvisation nécessaire lors de ce qu'on appelle une battle. Cette spontanéité, cette insistance qui doivent surmonter des difficultés physiques. Non, je reprends ma phrase parce que je l'avais écourtée. Cette spontanéité, cette insistance sur l'individualité attire les danseurs qui doivent surmonter des difficultés physiques. C'est la beauté du breakdance, explique Lucas. On peut être soi-même et être reconnu comme ça. C'est dans cet esprit qu'il a fondé, il y a 7 ans, la troupe internationale Ill, comme malade, Abilities. La bande, dont le slogan « Pas d'excuses, pas de limites », est composée de 4 autres danseurs venus des États-Unis, du Chili, de Hollande et du Japon, rencontrés lors de diverses compétitions. Ils partent en tournée dans le monde entier, affinant leur savoir-faire en battle et offrant des performances de motivation. Comme chaque danseur est atteint d'un handicap différent, ils organisent leur chorégraphie en fonction de ses particularités. Ainsi, Checo est né avec une malformation de la partie inférieure du corps. Un cancer a obligé Thomas Guns à se faire amputer la jambe droite. Partiellement sourd de naissance, Cujo a du mal à entendre la musique. Et Redo n'a pas d'articulation au coude droit ni de hanche droite. Alors, ce sont vraiment des handicapés. Alors, Lucas et son épouse, Mélissa, ne sont pas seulement partenaires dans la vie. Avec Éric Martel et Marie-Hélène Patnaud, ils ont fondé une organisation appelée Projet RAD, qui aide les écoles de danse de la région de Montréal à devenir plus accessibles aux personnes handicapées. Alors, c'est un texte qu'on peut lire dans le Reader's Digest du mois d'octobre, « Danseurs sans limites ».
Un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce que malheur. Bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à son écartelé. Pour atteindre l'inaccessible. Et toi,
c'était bien sûr Marc Hervieux. Dans l'actualité, toujours du 1er novembre, un modèle suédois par Jacques Godbout. Le 29 mai 2010, des militants internationaux quittaient Nicosie, à Chypre, à bord de navires transportant vivres et médicaments pour Gaza. Ils voulaient forcer le blocus illégal qu'Israël imposait à l'enclave palestinienne. Henning Mankell était du voyage à bord du Sophia, arraisonné dès le lendemain par les soldats israéliens en pleine nuit au beau milieu des eaux internationales. Violents, les soldats se comportaient en pirates. 8 ou 9 passagers étaient tués, mais l'auteur Mankell était immédiatement isolé sur le navire et protégé. 2 jours plus tard, un Mankell en colère, qui avait voulu joindre l'acte à la parole, était renvoyé en Suède. Les autorités israéliennes savaient bien ce qu'il représentait et ne souhaitaient pas en faire un martyr avec plus de 40 millions d'exemplaires d'œuvres de fiction vendues dans 120 pays, traduites en 40 langues. Henning Mankell était trop connu. Pourtant, Kirsten Jacobsen rapporte, dans la biographie qu'elle a faite de lui, qu'il est encore plus ou moins ignoré dans son propre pays, peut-être parce qu'il le critique avec véhémence, d'autant plus qu'il lui est profondément attaché. Abandonné à 2 ans par sa mère, réfugié dans une petite ville avec son père juge, l'enfant, le vrai créateur en soi, insiste-t-il, se souvient du tribunal au-dessus duquel il habitait avec frères, sœurs et grand-mère. Le juge était un père aimant et un homme de principe. Son fils, Henning, est devenu un auteur dont la même fibre morale parcourt toute l'œuvre, dramatique ou romanesque, ne cessant de fouiller la condition humaine. Mankell se désespère de voir la Suède démanteler l'État-providence depuis que le gouvernement a fusionné les communes dans les années 60 et les citoyens suédois confondre progrès matériel et culture, ne plus distinguer justice et solidarité. Et c'est pour écrire sur le démantèlement du modèle suédois de démocratie que Mankell a entrepris la série des Wallander, qui l'a rendu célèbre dans le monde. Pour ses aventures policières, il a imaginé un enquêteur solitaire, diabétique et torturé, Kurt Wallander, qui boit et fume trop, s'entend mal avec les femmes et, dans l'ultime 10e roman, L'homme inquiet, souffre d'Alzheimer. Les adaptations télé, dont celle de la BBC avec l'extraordinaire Kenneth Branagh, rendront le personnage de Kurt Wallander très attachant et la petite ville portuaire d'Istad, où le policier lutte contre le mal, un rendez-vous pour les touristes lecteurs. La biographe danoise Kirsten Jacobsen nous apprend que Mankell a épousé en 1998 Eva Bergman, la fille du cinéaste et dramaturge Ingmar Bergman, mais surtout qu'il partage son temps entre l'Afrique et l'Europe. Nomade depuis son adolescence, Mankell possède une île, 2 appartements et une ferme en Suède, ainsi qu'une maison à Antibes pour l'hiver, où séjourne Eva. L'écrivain, qui est de plus dramaturge, habite aussi plusieurs mois par année au Mozambique, où il co-dirige un théâtre à Maputo et partage sa fortune avec des démunis sur trois continents. Cet homme, qui n'est ni un saint ni un être social, souvent colérique, a fait ses classes comme maoïste à Paris en mai 68. Entouré de 5 collaborateurs, recherchistes, éditeurs, agents, administrateurs et son fils producteur de cinéma, Henning Menkel est toujours pressé de créer, de produire, d'aider, de rappeler à tout instant l'existence des « autres », entre guillemets, privés de confort et de démocratie. Si le modèle suédois est en déliquescence, Menkel est un modèle d'écrivain engagé, comme il y en a peu aujourd'hui. Alors c'est Jacques Godbout qui, dans sa chronique portant sur des essais étrangers, nous parle de Henning Menkel, un modèle suédois. C'est d'après une biographie écrite par Kirsten Jacobsen. Et pour terminer, on se plonge dans les brèves. Une brève un peu plus longue ici, Nouveau-Brunswick. Qui est Brian Gallant? Il est devenu fin septembre l'un des plus jeunes premiers ministres de l'histoire canadienne. Ses origines. Il est né en 1982 à Shediac Bridge, près de Moncton. Il s'est d'abord fait remarquer aux élections provinciales de 2006 alors qu'il était président de la Fédération étudiante de l'Université de Moncton. Il s'était présenté sous la bannière libérale contre le premier ministre d'alors, le progressiste conservateur Bernard Laure, dans sa propre circonscription. Élu chef du Parti libéral en 2012, il a fait son entrée à l'Assemblée législative l'année suivante lors d'une élection partielle. Le 22 septembre dernier, son parti a battu le gouvernement progressiste conservateur sortant en remportant 27 sièges sur 49. Il s'inscrit dans une longue lignée de jeunes premiers ministres qui ont dirigé la province au cours des 50 dernières années. Bernard Laure, 33 ans, Frank McKenna, Sean Graham et Richard Hatfield, 39 ans notamment. Ils sont nombreux les défis qui l'attendent parce que la province est minée par une économie moribonde, taux de chômage 9,6%, un déficit imposant, 387 millions sur un budget de 8,4 milliards, et l'exode de ses travailleurs, 40 000 personnes depuis 1976. Brian Gallant a promis de miser sur la création d'emplois, sans préciser combien, et d'équilibrer le budget en 6 ans. En tourisme, on peut prendre des vacances atypiques. Séjourner dans une érablière de Sutton pour découvrir les secrets du sirop d'érable ou dans une assinerie de Lanaudière pour vous familiariser avec l'élevage des ânes, ça vous tente? Ces expériences sont désormais possibles au Québec grâce au Worldwide Opportunities on Organic Farms, un réseau mondial de fermes biologiques. Des hôtes accueillent des woofers, pour faire partager leur savoir-faire, leur quotidien et le travail à la ferme. Ils offrent le travail de la ferme, mais attention, l'expérience est tout sauf des vacances. Les journées commencent à l'aube et sont bien remplies. Nourrir les bêtes, désherber, couper du bois, planter, pelleter du fumier. Le réseau Woof compte des fermes dans une centaine de pays. Il est donc possible de faire le tour du monde en woofant, de ferme en ferme. Hein? On aura tout vu. De très courtes brèves. Poil au menton. Dernière tendance en chirurgie esthétique en Europe, la greffe de barbe. L'an passé, seulement des dizaines de milliers d'imberbes se sont rendus en Turquie où ils se font greffer poil par poil une abondante pilosité faciale. Coût de l'intervention, environ 2 500 €, 3 500 $ canadiens, soit deux fois moins qu'en France. On peut le faire en Turquie. Et si Beethoven avait su, les musiciens professionnels courent quatre fois plus de risques de souffrir de surdité que le reste de la population. On découvert des chercheurs allemands, et ce, peu importe le style de musique interprétée, ils recommandent à ces artistes de porter des bouchons d'oreilles et de disposer des écrans par son entre les différentes sections des orchestres. C'était le Kiosque Magazine du lundi 17 novembre, si ma mémoire est fidèle. Ici Roger Roy et en régie Jean-Sébastien Laliberté. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.